tout d'abord, on va raconter très vite comment je me suis intéressée aux questions de publication, c'est-à-dire par publication, notamment je suis chercheur, donc je publie, je suis très intéressée par la question de publication, mais j'ignorais absolument tout des négociations que les publishers font avec nos bibliothécaires. Et comment je suis tombée là-dedans, c'est pas un hasard naturellement. Et il faut dire que j'étais le chercheur, jusqu'à 2008, j'étais le chercheur normal. Un chercheur normal, c'est un chercheur qui travaille beaucoup et qui n'a vraiment pas de temps à perdre, avec les questions comme ça. S'il vous plaît, vous pouvez. Voilà, ça me dérange. Donc on travaille beaucoup et aussi longtemps que tout vous tombe tout cuit avec il suffit d'aller sur internet, vous avez accès à tous vos articles, dans ces conditions-là, il n'y a absolument pas à essayer de comprendre comment marche le système. Quand un système marche, c'est comme votre voiture, aussi longtemps qu'elle n'est pas en panne, vous en fichez complètement. Donc aussi longtemps que le système de publication vous tombe tout cuit, on est très content, voilà, ça marche. Il faut dire qu'on est quand même dans des institutions qui justement, par exemple l'école normale supérieure où je suis, ont des moyens. Bon, pour être meilleurs, mais ils sont quand même très bons. Et imaginez que vous êtes dans un petit laboratoire et surtout dans un pays, il y a beaucoup de pays qui n'ont en fait accès à aucune publication. J'étais là, il y a 15 jours, j'ai donné un cours à Trieste, à l'Institut de physique théorique de Trieste, qui est un endroit des Nations Unies. J'avais des étudiants qui venaient de Cuba, qui venaient d'Afrique, qui me disaient, on n'a rien, mais c'est accès à rien. Ils ont archive. Bon, parce qu'ils font par chance, ils font des maths et de la physique. Donc, voilà. Ça, il faut le savoir. Alors, je recommence. Comment je suis rentrée là-dedans? C'est parce qu'en 2008, j'ai été nommée par le CNRS à ce qu'on appelle le comité d'éthique du CNRS, et COMETS, et qui, à l'époque, était présidé par Jean-Pierre Bourguignon. Alors, d'abord, j'ai accepté parce que j'estime beaucoup Jean-Pierre, mais j'ai mis une condition. Et la condition, c'était je ne m'intéresserai qu'aux problèmes internes au CNRS, solubles au CNRS. Et si au bout de 6 mois, je vois que vraiment, bon, ça ne sert à rien, je perds mon temps, je m'en vais. Par chance, Laurette Tuckerman, qui est chercheur à l'école de physique chimie, a eu le problème que racontait hier Madame Kounelis, qui est la bibliothécaire de l'école de physique chimie. L'école de physique chimie ne pouvait plus payer l'abonnement à les prix exorbitants demandés par Elzire pour son abonnement. Alors par abonnement, je rappelle, parce que hier, ça a été naturellement amplement discuté, mais il y a peut-être des gens dans la salle qui n'étaient pas là hier. Abonnement au jour d'aujourd'hui, ça veut dire que Elzire vous oblige à acheter toute sa collection, c'est-à-dire 2200 revues, et en gros, c'est ça ou rien. Alors c'est le titre pompeux de Big Deal, bonne affaire, mais dans les faits, on se fait avoir. Et donc, Madame Kounelis a bien analysé la situation et a vu que c'était pas raisonnable d'accepter ce contrat, et donc elle l'a refusé. Et donc l'école de physique chimie n'était plus abonnée aux revues d'Elzire, mais à ce stade, Elzire a eu le culot, c'est vraiment le mot que l'on peut employer, de contacter le CNRS en demandant d'avoir la liste de tous les chercheurs CNRS qui sont physiquement sur le site de physique de l'école de physique chimie pour leur couper aussi les accès. Alors il faut savoir quand même qu'à l'époque, on était en 2008, le CNRS payait 4 millions par an pour justement cette collection. Alors aussi, cette collection, elle est géniale, les 2200 revues, pour l'époque, il y en avait peut-être un peu moins, c'était 1850, si je me souviens bien, d'Elzire qui vous vendait donc sous en bundle, c'est-à-dire en bouquet, avec cette publicité de Big Deal, s'appelait aussi la Freedom Collection, elle s'appelle toujours la Freedom Collection. On est dans du marketing, hein, vous voyez, ils sont très très forts. Et le CNRS payait donc 4 millions, et en plus, Elzire demandait au CNRS de couper les accès à ses propres chercheurs. Alors j'ai dit, ah là je tiens mon problème au CNRS, peut-être soluble au CNRS, et donc je commence à essayer de comprendre quelque chose, je m'y connaissais absolument bien à l'époque, et j'ai mis 3 ans pour rédiger ce que vous avez trouvé ici. Alors je vous dis tout de suite, donc bon, vous avez compris, hein, j'apprends à 7h du matin, même 8h du matin juste avant de partir, que nous n'avons pas le premier conférencier, donc j'improvise un peu l'exposé là. Alors, pour improviser l'exposé, je me base sur un site web que j'ai, qui est une sorte de base de données personnelle, mais vous pouvez y accéder, dont le titre, c'est wavelets.ens.fr, c'est l'URL, wavelets.ens.fr. Ça, c'est mon adresse, c'est mon site web de base. Mais il y a une partie un petit peu plus privée, vous faites slash boycott en majuscule, underline Elsevier en majuscule. Voilà. Et là, vous arrivez là-dessus. Là, c'est une interface très simple que j'ai faite pour moi, c'est pas fancy. Et je vais commencer à travailler à partir de là. Alors, là-dessus, si vous allez dans ce fichier, vous trouvez l'avis au comité d'éthique. Donc cet avis, j'ai mis 3 ans pour l'écrire. Et il a été. Alors, la version que vous avez sur mon site, c'est la version du 27 juin 2011. Alors, ça, c'est la bonne version. Vous me permettez, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que malheureusement, sur le site officiel du CNRS, la version a été tronquée de tout ce qui était intéressant. C'est vraiment ça qui s'est passé. Alors, c'est long, je ne rentre pas dans les détails. Donc, j'explique tout le site. Je vous montre quand même les têtes de chapitre. J'explique qu'est-ce que c'est que publier. Je commence à montrer qu'il y a un problème avec la cession gratuite du droit d'auteur exigé par une maison d'édition. Ensuite, manque de soutien de la part du CNRS et ses chercheurs en matière de droit d'auteur. Pourquoi j'écris ce paragraphe? C'est parce que les premières personnes auxquelles j'ai eu l'idée de m'adresser quand j'ai essayé de comprendre quelque chose, c'était d'aller voir la cellule juridique du CNRS, où à l'époque il y avait 3 personnes. Et je leur ai apporté 10 de copyright agreements que j'avais signés, et en leur expliquant que moi, chercheur, je mets depuis aussi longtemps que j'ai un site web, ça fait au moins 15 années, je mets la version publiée de tous mes articles sur mon site web, parce que je considère que je fais un travail qui doit être distribué le plus largement possible, parce que moi j'ai besoin de lecteurs. On est dans des sujets hyper spécialisés, et il faut aussi... Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'à l'époque, étant ancien, j'ai commencé à faire de la recherche dans les années 70, mais j'ai commencé à publier dans les années 80, et je recevais beaucoup de demandes venant d'Inde, d'Afrique, etc., de gens qui me demandaient de les tirer à part. Donc à l'époque, quand on publiait, un chercheur, l'éditeur, qui n'avait pas du tout accès, justement, il n'avait pas tout Internet comme aujourd'hui, on n'avait pas le web, donc l'éditeur demandait au chercheur de faire la publicité en distribuant une centaine, ça varie entre 50 et 100, tirés à part, que le chercheur devait justement envoyer pour faire de la publicité. Et les tirés à part, j'insiste là-dessus, c'était la version publiée, avec la mise en page de l'éditeur, et c'était l'éditeur qui me demandait de le faire. Et malheureusement, par exemple, 50 tirés à part, souvent c'était pas suffisant, parce qu'on m'en demandait plus. Et alors après, c'était à moi de faire les photocopies, et je me souviens, ça me crevait le cœur, il est arrivé plusieurs fois à la fin de l'année, j'avais une pile de demandes comme ça d'articles, et j'avais pas le temps de faire les photocopies, et j'étais obligée de mettre les lettres à la poubelle. Et ça, c'était terrible. Des gens qui étaient en Afrique, qui vous demandaient votre article, et vous ne pouviez pas leur envoyer, vous n'avez pas le temps. Alors, dès que j'ai pu faire un site web, très tôt, j'ai tout mis sur le site web de mon site web, que vous voyez là, le webnet.ns.fr, vous allez dans publication, vous avez la version publiée de tous mes articles. Tous ceux que... Oui, voilà. Et donc, je vais voir la cellule juridique du CNRS en disant « Ah, j'ai signé un copyright agreement, quel risque je cours étant donné que je mets à la faculté ?» Et là, à mon grand étonnement, les personnes m'ont dit « T'es mieux, on est juriste, on est spécialisé dans le droit des brevets, mais on ne connaît rien en droit d'auteur. » J'étais un peu soufflé. Et la raison, c'est parce que le droit d'auteur appartient aux chercheurs en propre, donc le CNRS n'a rien à voir avec ça. Bien. Alors donc, manque de soutien de la part du CNRS vis-à-vis de ses chercheurs, c'est ce que elles ont quand même été très bien, les 3 personnes de la cellule juridique. Je vais tout de suite vous le montrer, parce que je leur ai quand même demandé de faire l'exercice. Je leur ai dit, bon, bah, écoutez, vous allez quand même essayer de chercher. Alors, dans les annexes, alors je vous redis, malheureusement, les annexes ont été retirées dans la version qui est sur le site du comité d'éthique du CNRS. C'est vraiment très, très triste. Elles m'ont fait ce très bon avis, avis de la direction d'affaires juridiques du CNRS sur les formulaires de cession de copyright que je leur avais fournis. Elles ont mis 2 ans à le faire, mais elles ont fait du bon travail. Et c'était très bien. Alors, je reviens dans les têtes de chapitre. On en était au fait que le CNRS ne soutient pas. Je continue. Revendre du CNRS des résultats de ses chercheurs par les maisons d'édition. Ah bah, c'est tout le problème. J'explique le système des bundling, j'explique les conditions dans lesquelles sont faites les négociations. Et là, je suis naturellement allée voir beaucoup de bibliothécaires pour essayer de comprendre quelque chose. Et je suis aussi allée voir quelqu'un qui était là hier, que vous avez vu, qui était le 2e conférencier, qui est quelqu'un de remarquable, qui lui avait participé, donc Jacques Laffey, qui est de l'UPMC, et lui avait participé à la négociation pour justement le bundle, le contrat avec Elsevier, au titre de l'université Paris 6, UPMC, et c'est ce qu'il nous a raconté hier. Et où il a fait une chose très très bien, c'est qu'il nous a raconté, alors dans les annexes, l'annexe 3, elle est remarquable. Parce que j'avais interviewé Jacques pour lui demander qu'il me raconte la négociation. Et il m'a dit des choses tellement intéressantes que je lui ai demandé de le rédiger lui-même. Parce que ce n'était pas la même chose si c'est quelqu'un de première qui a vraiment participé à la négociation, qui écrit, qui raconte les choses, ou si c'est moi par lui. Donc il a écrit cette annexe 3. Cette annexe 3 est très très importante. Élément d'information sur l'affrontement entre l'UPMC et le SBIR pour 2010-2011. Je ne vais pas vous l'écrire maintenant, il nous l'a raconté hier, mais cette chose a joué un rôle parce que, bon, quand j'ai vu que sur le site du CNRS, ils avaient enlevé toutes les annexes, donc ce qui était la partie pour moi, il y avait de l'information la plus importante, j'étais obligée de faire la publicité moi-même de cette version du 27 juin, donc elle est sur mon site web, elle est dans mon site web en publication, vous pouvez la télécharger en passant dans le site de base, mais vous pouvez aussi aller dans cette partie qui s'appelle Boycott. Et elle a été même tellement importante que j'en ai fait une version anglaise. En fait, très exactement, c'est Catherine Cox qui a très gentiment traduit le texte. Pourquoi ? Parce qu'il fallait faire de la publicité pour ce témoignage. Et donc, je connais bien Tim Gowers, et en janvier 2012, on s'est vu à Paris, et je lui ai montré le témoignage de Jacques Laffey. Et Tim Gowers était vraiment choqué comme... Vraiment, le chercheur de base, il ne sait pas comment se passe la négociation pour les abonnements aux revues. Et quand il nous découvre, mais alors là, il n'accepte pas. C'est révoltant. Voilà. Et quand j'avais vu Tim à ce moment-là, il m'avait aussi parlé d'une chose. Alors, je passe à autre chose. Donc, vous pourrez aller voir vous-même. Juste une chose quand même, je vais reprendre le fil de ce que je vous dis. Regardez aussi dans Biblio Avis. J'ai mis toute la bibliographie qui m'a servi pour rédiger cet avis et vous trouvez des belles choses. Vous trouvez en particulier les articles de Theodor Bernstrom qui, déjà, c'est un économiste qui est à l'université de Barbara, déjà à l'époque dénonçait tout le système. Free labor, for cost, journal, etc. Donc allez voir, ce sont des perles. Et alors il y a une autre perle qui vous explique aussi comment fonctionne le système. C'est ce rapport de Morgan Stanley 2002. Les banques, les investisseurs, si vous avez de l'argent à investir, le meilleur du meilleur pour vous, pour rapporter du profit, c'est d'aller dans Scientific Publishing. Et il explique que vous faites dans les 30 et 40% de profit et que les notions qu'il développe, c'est la notion de prix inélastique. C'est absolument génial, on multiplie le prix par 5 des revues, il continue à payer par 10, il continue à payer, c'est inélastique, on peut demander le prix qu'on veut. Alors, ça vaut son pesant d'or. Alors, maintenant, je reviens au début du boycott. Donc, Tim a un blog absolument remarquable. Je vous conseille, c'est un blog plutôt pour les mathématiciens, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent intéresser d'autres personnes. Et donc, le 21 juin... Ah oui, pardon, je vais vous montrer autre chose. Non, je vais vous le dire, je ne vais pas vous montrer. Mais avant cette date... Et quand on s'était vu à Paris le 12 janvier, Tim m'avait raconté qu'il était sorti dans The Guardian, un article expliquant, je vais même tout de suite aller dans ce truc-là, expliquant qu'il avait été déposé, alors là vous avez là-dedans, vous avez, j'ai mis toutes les bills, toutes celles qui se semblent importantes, donc c'est des propositions de loi au Congrès américain, et voilà la proposition de loi qui avait été déposée par en décembre 2011 par deux congressmen, Issa, républicain, Maloney, démocrate. Mais dans l'article du Guardian, ils expliquaient qu'en fait, ces deux congressmen avaient été payés par Elsevier pour déposer le truc. C'était du lobbying d'Elsevier, alors payé, ou au moins c'était sous l'effet du lobbying d'Elsevier que ces deux congressmen avait pensé que c'était très très important de dire qu'il faut absolument que l'industrie, vous lisez le texte, le principe, c'est en gros de dire que la dissémination des articles scientifiques doit rester sous le contrôle des publishers parce que, regardez, the private sector research work. Ouais, il faut le lire, mais en gros, l'idée, c'est que il y avait eu déjà dans le passé des bills au Congrès déposés en particulier par la National Institute for Health qui disaient que, comme la recherche payée par de l'argent fédéral, typiquement la NIH, c'est de l'argent public, c'est du contribuable qui paye, on doit rendre les résultats de la recherche aux contribuables. Et ça, en appliquant le principe de la Constitution américaine, c'est un principe vraiment très fort. Eh bien, la NIH propose ça. Naturellement, il y a du lobbying contre, ça passe pas. Et ensuite, quand on fait du lobbying, on fait de l'anti, on fait des attaques, on essaie de faire passer des bills qui sont opposés à l'open access. Et là, en gros, cette bill disait on veut bien qu'il y ait de l'open access à condition que ce soit sous le contrôle des publishers. Alors là, nous, on a dit non, ça va pas du tout. Et Tim, alors sur son blog, le 21 janvier 2012, a écrit tout simplement, bon, faut le lire, a écrit tout simplement, à partir de maintenant, je refuse de publier, je refuse d'être éditeur et je refuse d'être référé pour des revues d'Elsevier. Et il ajoute, et ce serait bien que d'autres en fassent autant. Dans la nuit ou le lendemain, c'est parti avec les hackers qui ont envoyé ça un peu partout. Et deux jours après, il y avait un site web qui s'appelle The Cost of Knowledge, où il suffit d'aller, vous cliquez, je ne veux pas publier, je ne veux pas référer, je ne veux pas être éditeur. Et huit jours après, il y avait déjà à peu près 2000 signatures. En ce moment, on doit en être à 14 000, etc. Et regardez bien dans les blogs. Là, alors, j'ai tout classé par ordre chronologique. Donc là, on est le 21 janvier 2012. Le 28 janvier 2012, regardez cette petite perle. Blog de Forbes. Vous voyez, Forbes, c'est les banques, hein. Mais ils connaissent le modèle par cœur, ils le connaissaient mieux. Alors, en gros, l'état des lieux dans ces années-là, un chercheur, il ne savait absolument pas comment fonctionnait le système de publication, rien, l'économie du truc, rien. Mais les investisseurs, ils savaient très très bien. Donc, à peine le boycott commence, il sort ce blog. Elsevier publishing model might be about to go up in smoke. Academic publishing is very good game indeed, if you can manage to get into it. As a publisher, the work is created at the expense of others, for free to you. There are no advance, no royalty to pay. The editing, the checking, the decision about whether to publish, these are all done for free to you. You, the publisher, of course. And the market, that's every college library in the world, and the market is every college library in the world, and they are very price sensitive indeed. Donc, ces gens nous connaissent mieux que nous. Et lisez ça, ça vaut son pesant d'or. Et là, on était à moins de 8 jours du début du boycott. Suite à quoi, donc je vous ai dit le rôle des hackers, mais il y a un autre groupe qui a joué un rôle majeur et remarquable, ce sont les journalistes. Surtout les journalistes côté anglais, c'est typiquement The Guardian, mais aussi côté américain, vous verrez, il y a toute une série d'articles. Et le premier article, là, on est au 4 février 2012, le boycott est commencé depuis 10 jours. Cette perle aussi, un très très bon article, The Economist, c'est quand même pas mal. Je suis un peu de droite, quoi, mais justement, ils connaissent très très bien le système. The price of information, academics are starting to boycott a big publisher journal. Vous le lirez en détail, ils connaissent très bien tout. Et à la fin, ils finissent comme ça. OK, commercial publishers have begun to experiment with open access IDs, such as, c'est bien leurs idées, charging authors for publication rather than readers for reading. But if the boycott continues to grow, things could become more urgent. Ça veut dire, allez-y les gars, faites vite le goal d'open access avant que les chercheurs se réveillent, parce que sinon ça va mal, on va perdre notre business. Et alors la phrase d'après, elle est très belle, c'est la vérité. After all, publishers need academics more than academics need publishers. And incumbents, sous-entendu Elsevier, often look invulnerable until they suddenly fall. Et alors là, la phrase marketing type, beware then the academic spring. Donc, on a été connu dès le 2 février ou 4 février comme le mouvement the academic spring. Alors, nous, on ne faisait rien. Je veux dire, on avait bien vu, il n'y avait absolument aucun plan politique. Tim, choqué par découvrir le système, le poteau rose, il dit, bah maintenant, moi je boycotte. Et puis ça serait bien qu'il y en ait d'autres qui fassent. Voilà, et c'est tout. Personne, nous, on bougeait pas, là, on n'avait pas de plan, ça s'était fait par hasard. Mais eux, ils nous ont fait tout le marketing, on va dire, ce que nous, on n'avait pas du tout prévu de faire. Et suite à quoi? Alors, naturellement, ça s'est développé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ça commençait à être dans les journaux un peu partout, Elsevier n'était pas content, en disant, mais qu'est-ce que c'est que tu racontes, c'est n'importe quoi. Alors, nous, on s'est retrouvés obligés de rédiger une déclaration. Donc, on a rédigé, alors, on a les mails, on avait un petit groupe de personnes autour de Team, et donc, c'est Team qui a rédigé la première version, mais après, collectivement, on l'a reprise. Donc, le 9 février 2012, on sort cette déclaration qui s'appelle The Cost of Knowledge, où, en gros, on donne nos raisons pourquoi boycotter Elsevier. Et on donne les raisons, là, on a dû faire un peu de recherche, on explique, bah, c'est parce que la politique du bundling, et c'est parce que les prix sont absolument astronomiques, et les prix des abonnements sont astronomiques, et c'est parce qu'il y a le Research Works Act, on est opposé au Research Works Act, et on explique aussi, c'est parce qu'il y a des revues d'Elsevier qui sont scandaleusement manipulées au niveau du peer reviewing. On donne le cas d'une revue où l'éditeur en chef, il a publié plein d'articles, je ne sais pas, une centaine d'articles. On montre que le système est malheureusement étant entre les mains du publisher, il va pourrir tout seul. Parce que le but des publishers, c'est de maximiser le nombre d'articles pour maximiser leur profit, donc 39% l'année dernière pour Elsevier. Et donc, ils veulent simplement que les chercheurs fassent le peer review le plus vite possible et qu'ils écrivent un maximum d'articles. Malheureusement, des idées, c'est quand même assez rare. Une vraie idée, une grande idée, il n'y en a pas souvent. Et pour faire des grandes idées, il faut que les chercheurs y réfléchissent beaucoup. Et réfléchir beaucoup, ça veut dire pas perdre du temps à écrire plein d'articles au poids pour essayer de faire monter la productivité. Mais pas dans... L'académique ne doit pas être dans la productivité, ça doit être dans la qualité et dans l'originalité. Hein. On est payé pour avoir des nouvelles idées, on n'est pas payé pour répéter 10 fois la même idée dans 10 articles différents. Donc voilà, on donne toutes nos raisons là-dedans. Alors naturellement, ce à quoi Elsevier est absolument furieux en disant « Quoi, les prix, vous nous dites que c'est cher ?» Mais naturellement, c'est pas cher, nos prix sont pas chers. Bien évidemment, comme les contrats sont secrets, les prix sont à la tête du client, c'est évident qu'ils vont trouver un endroit où c'est pas cher. Voilà, parce que justement, ils manipulent tellement bien le système que la notion de prix n'a même plus de sens. Alors, suite à quoi, alors donc la déclaration sort, je retrouve ça, la déclaration sort et... Ah oui, je fais une chose que je ne vais pas montrer les signataires. Donc c'est parti d'un tout petit noyau de personnes et à laquelle s'est accrété plusieurs autres mathématiciens. C'est-à-dire on a appelé plusieurs personnes qu'on connaissait. Moi par exemple, j'ai le souvenir, j'ai contacté Ingrid Dobuschies, très grande mathématicienne, et en lui racontant le boycott, et en lui disant est-ce que tu veux signer? Alors non seulement elle a signé, mais en plus, elle a fait une chose très très forte. Alors, vous voyez, dans mon anglais, c'est que des mathématiciens, mais il y a plusieurs médailles Fields, c'est pas mal du tout. En particulier, Turin Starrow, donc Tim Bowers. En France, on a Vendeline Werner. Et puis, ça vient un peu de tous les pays du monde, pas tous, non pas tous. Il y a un Allemand, il y a un Japonais, puis on sait Américain, Anglais, Français. Et. Donc, dès le lendemain, je reviens aux journaux, la couverture des journaux a été remarquable. Regardez cet article du New York Times. Donc là, on est le 13 février, article du New York Times qui explique, et ça c'est une phrase, vous allez voir, que je considère comme majeure. The signers include 3 film medalists, Gowers, Ernstow and Vendeline Werner. The statement was also signed by Ingrid Dobuschies, president of the International Mathematical Union, who then resigned as one of the unpaid, le mot-clé c'est unpaid, editors-in-chief of the Elsevier Journal Applied and Computational Harmonic Analysis. Et ça, c'est absolument essentiel, parce que ce que les publishers font croire à la fois aux investisseurs, à la fois au gouvernement, à la fois éventuellement au grand public, c'est que le peer reviewing, c'est eux. C'est grâce à eux que le peer reviewing existe. Et, sous-entendu, vous comprenez bien, ça nous coûte très très cher de faire du peer reviewing de qualité. Eh bien non, ça leur coûte rien parce qu'on fait ça gratuitement. Et s'il y en a qui sont payés pour faire du peer reviewing, ça existe, il y a des revues dans différents domaines, malheureusement. Moi, quelque part,
ça devrait être dit officiellement. Or, c'est secret.
Ouais, moi, je suis dans le comité éditorial de la même revue, Plan Computational Harmonic Analysis. Je peux vous dire, on soupçonne un des trois chiefs éditeurs d'être grassement payé. Et très, très grassement payé, par exemple. Simplement, on n'a pas le droit de dire, on n'a pas le droit de le demander. Et ce monsieur, qui est le chief éditeur, quand il a vu que j'ai signé le boycott, il m'a demandé de resign. Il m'a envoyé un mail genre, if you're awkward position, please resign. I say, I'm very sorry. I am, je dis en français, je suis vraiment désolée, je travaille gratuitement en tant que un des éditeurs de cette revue. Cette revue, avec Ingrid et d'autres, j'ai participé à la création de cette revue. On a été créé chez Academy Press en 1993, mais malheureusement, Academy Press a été racheté par Elsevier en 2000. Alors, quand il y a ces fusions et ces gros rachats de revues, bien évidemment, les derniers prévenus sont les éditeurs. Hein. Sauf l'éditeur Poisson Pilote qui est caché, celui qui est payé par Elsevier, mais celui-là, il ne le dit pas aux autres. Donc ça, c'est un peu le problème. Et donc, je réponds donc à cette personne, je peux même dire son nom, Charles Shui. Et donc, Charles Shui me répond. Alors, donc je lui dis, écoutez, moi, je suis désolée, je suis payée par le CNRS, je ne suis pas payée par Elsevier, et en ce moment, le CNRS est en conflit avec Elsevier, parce qu'effectivement, c'était toute la négociation du fameux contrat. Et je disais, aussi longtemps que mon propre employeur qui me paye est en conflit avec Elsevier, je ne peux pas faire mon travail d'éditeur, donc je suis en grève, mais je suis désolée, je ne démissionnerai pas, je fais partie des gens pour qui cette revue compte. Et j'ai rajouté une petite phrase très très importante, étant donné qu'aucun des éditeurs n'est payé, je le vois vraiment dur quelque part, vous comprendrez donc que je suis plus fidèle à mon employeur qu'à Elsevier. Et il avait compris cette petite phrase, étant donné qu'aucun des éditeurs n'est payé, 5 minutes après, vous regardez les heures des deux mails, il me répond, d'accord, pas de problème, tu restes en grève, pas de problème. Voilà. Bon, alors quelques mois après, ils ont enlevé mon nom, ils ont fait apparaître d'autres noms, ils ont changé les éditeurs, parce que c'est eux qui décident. Voilà, alors là, j'étais tellement débordée de boulot que j'étais au Japon à ce moment-là, j'ai même pas répondu, j'ai vu brûler un nouveau numéro de la revue, il n'y a plus mon nom, bon, j'ai laissé tomber, j'ai rien dit. Mais ils avaient enlevé d'autres éditeurs aussi, j'ai rien dit. Et puis, miraculeusement, 3 mois après, mon nom a réapparu et j'ai reçu un mail de la secrétaire du journal disant « Oh, on a eu un petit problème de secrétaire, on est vraiment désolé, oh, c'est vraiment une petite erreur. » Moi, j'avais rien demandé, en plus, c'était rigolo, donc c'est pas mal, il y en a un qui a respecté. Et ça montre aussi que c'est eux qui font ce qu'ils veulent et que les éditeurs, on est pris pour des gens corvéables à merci. Et surtout, alors... C'est même pas leur seul, mais on n'est pas payé. Mais c'est eux qui décident tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le groupe Cost of Knowledge, on a une adresse à nous, je dirais, entre nous. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a beaucoup de dialogue entre nous, dès le début du mouvement. Et je vous montre maintenant, typiquement, cette correspondance. Voilà. Donc, on fait le boycott d'Elsevier, on dit, on n'en veut plus. Mais comment on fait? Comment remplacer le système? Par exemple, dans le journal Applied Computational Harmonic Analysis, bien évidemment, on aimerait changer d'éditeur, mais on ne peut pas. Parce que si c'est pour aller chez Springer, ça ne change rien, ça change rien au film. Et en plus, on ne peut pas, parce que malheureusement, le titre de la revue appartient à Elsevier, en fait, appartient au publisher. Et non seulement le titre, mais toute la correspondance qu'un éditeur, par exemple, a avec les référés, avec les auteurs, ça appartient à Elsevier. C'est grave. Alors, donc, notre groupe, on a commencé à discuter entre nous en disant, et c'est Ingrid d'ailleurs qui a lancé l'idée, elle a lancé l'idée d'un journal fictif qu'elle a appelé Journal of Metaplectal Geometry, published by Elsinger. Et donc, elle dit, bon, on crée un nouveau journal, qu'est-ce qu'on veut, quel modèle on veut pour ce journal? Et on a très très vite convergé vers le fait que le plus important, c'est que le comité éditorial doit avoir une existence légale et le titre du journal doit appartenir au comité éditorial. Et là, la discussion, c'est, mais alors quelle structure donner justement, quelle existence légale? Alors, the legal entity, made up like a geometry. Alors, Foundation Society Corporation has been established as a foundation, hein? C'est below, the sole function of which is to get the journal published
LGM is a non-profit organization. Donc, this LGMG, ça c'est l'editorial board dans un cadre légal. Et moi je dis, je préfère peut-être coopérative, mais bon, on peut voir, après ça se discute. Et on a discuté vraiment plein de trucs, comment on fonctionne. Alors ça, vous le trouvez sur le web, cet échange. Alors, je mets que les mails que moi j'envoie, je ne mets pas les mails que les gens m'envoient, mais vous avez... et alors, ensuite, qu'est-ce que ça... Alors, je vais bientôt conclure. Je conclue parce que, notamment, on a commencé au quart et maintenant, j'ai fini mon temps. Mais vous avez donc une base de données avec énormément d'éléments et le nouveau modèle qu'on propose, c'est le Diamond Open Access. Et je vous montre juste une petite note là, que j'avais écrite en juin 2012. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Jean-Pierre Bourguignon, qui était à la tête du comité d'éthique, un jour me téléphone à 9h du soir en me disant, Marie, écoute, il y a la nouvelle ministre, elle vient d'être nommée Geneviève Fioraso, qui doit rencontrer son homologue allemande, Annette Chavan, et à l'ordre du jour, ils doivent discuter d'open access. Apparemment, ils ne savent pas très bien au ministère, qu'est-ce qu'il faut dire. Donc, écris une note sur la question. Ah oui, pardon, là c'est la version anglaise, excusez-moi. Je vous donne la version française, en français. Donc j'écris pendant la nuit cette version, qui a été traduite le lendemain au ministère en anglais. Donc il y a les deux versions, française et anglaise. Alors je raconte très vite l'histoire. Là je l'écris comme pour quelqu'un qui ne connaît rien à la notion de libre accès et open access. Donc je fais l'historique des différentes déclarations. Ça, sur le site, vous avez toutes les déclarations historiques depuis Budapest, Berlin, etc. Je pose les principes. Et ça, je pense que ça, c'est un principe que je voudrais vous dire tout de suite, qui me semble être le cadre dans lequel il faut penser le problème. La connaissance n'est pas une marchandise comme l'est un objet matériel. En effet, quand un chercheur donne une idée à un collègue, il ne la perd pas. Bien au contraire, il y gagne un interlocuteur. En effet, il y a alors quelqu'un avec qui il peut discuter son idée et la faire évoluer, en la clarifiant, la modifiant si nécessaire, en lui trouvant des applications auxquelles il n'aurait pas pensé lui-même. Cet échange réciproque est au cœur de l'évaluation par les pairs, où il s'agit avant tout de vérifier, de corriger et d'améliorer le contenu des articles avant de les diffuser largement. Car ce serait trop grave pour la collectivité de mettre des idées fausses en circulation. Donc je développe, ça c'est le principe. Ensuite je raconte un peu comment ça se passe et j'explique les différents modèles, parce qu'il fallait bien qu'elles sachent les définitions Gold Open Access, Green Open Access, etc. Donc ça je les explique. Mais j'explique aussi, attention, que les définitions sont manipulées par les publishers et que donc, à ce jour, ça veut dire essentiellement auteur-payeur, et comme on l'a très bien vu hier, malheureusement aujourd'hui, même open access, dans la tête du chercheur de base, ça a été, le lobbying des éditeurs a été tellement fort que quand on dit open access, maintenant tout le monde croit que c'est auteur-payeur. Ce n'est pas auteur-payeur, et vous le verrez dans des mails que j'ai échangés avec Ingrid, avec Tim, avec d'autres, dès le mois de mai 2012, j'ai dit attention, attention, il faut absolument introduire une troisième terminologie. Il y a gold, green, et on a proposé Diamond pour montrer qu'il y a une solution où ni l'auteur ni le lecteur ne paye. Et j'explique dans le Diamond, donc elle est appelée Diamond, et elle se caractérise par le fait que ni le lecteur ni l'auteur ne doivent payer, et que le journal, ça c'est essentiel, appartient non plus à une maison d'édition, mais au comité éditorial de la revue. L'idée, c'est que les publishers, au lieu d'être content owner, comme aujourd'hui, ils possèdent tout, ils deviennent service provider. Ils ne possèdent rien et ils sont à notre service et c'est nous qui les payons pour le service qu'ils font. Mais ils sont payés au service et ils sont en concurrence les uns avec les autres. Donc ça, ils ne sont pas habitués. Alors, je continue. Donc, j'explique que le comité éditorial, c'est un collège de chercheurs dont les membres sont renouvelés régulièrement, qui évaluent les articles gratuitement comme c'est le cas actuellement et qui se charge de la publication des articles. Alors ça, c'est le deuxième élément du Diamond Open Access. L'aspect publication, c'est-à-dire editing et mise en ligne, est fait par des unités de service qui se chargent de la publication. Le comité éditorial se charge de la publication des articles acceptés avec l'aide d'unités de service dont le rôle est d'assurer la publication des articles retenus, leur indexation, leur mise en ligne. Et le financement des unités de publication, donc des unités de service de publication, est soit pris en charge par les organismes publics de recherche sur le modèle des centres de calcul ou des réseaux informatiques. Parce que quand vous utilisez le réseau Renater, vous ne payez pas à chaque fois que vous utilisez le réseau, je suis désolée, c'est un service public offert aux chercheurs. Les grands centres de calcul nationaux, c'est la même chose. C'est vrai aux États-Unis, il n'y a pas qu'en France que c'est comme ça. Ou alors, on peut éventuellement avoir un autre modèle, qui est le modèle du freemium, dont on a parlé hier, qui était typiquement ce qu'utilise la plateforme revue.org, et qui est, je trouve, très bien, parce que par principe, L'article en ligne est lisible par n'importe qui, mais tout service supplémentaire est payé si vous voulez une version papier, si vous voulez un PDF, etc. Voilà. Et là, et je continue en disant, il faut développer ces plateformes à l'échelle européenne et ça passe par une collaboration en particulier avec l'Allemagne. Et j'expliquais ici, c'est très important, que le Brésil s'est doté de la plateforme d'édition électronique Cielo, qui est financée par l'État de Saint-Paul et qui publie, à l'époque c'était 500 revues, maintenant c'est de l'ordre de 1000 revues. Et ça, ça existe depuis 1999. Donc c'est possible, ça existe et c'est ça le modèle qu'on a en tête. Voilà, j'arrête ici parce que ça, je ne faut pas que je me calme. Et en tout cas, allez sur ce site, vous trouverez plein d'autres éléments. Et je le tiens à jour aussi, c'est-à-dire je suis les différentes les déclarations, je suis... Tenez, je vais tout de suite vous faire une publicité pour une dernière chose que j'ai mise sur le site. C'est l'article que Pablo, qui est ici, a sorti il y a 2 jours dans Mediapart et il est remarquable. Je vous le conseille très très fortement. Voilà, et vous voyez que ça reprend la fiche du colloque et ça a annoncé même le colloque. Donc il y a peut-être même des gens dans la salle qui sont venus grâce à l'article de Pablo. Bon, écoutez, je crois qu'on va pas faire... Alors, le style de cette réunion, c'est qu'on garde les questions, sauf si c'est des questions d'éclaircissement, mais minuscules, vraiment très précises. Sinon, tout l'aspect discussion, on le garde pour la fin, sous forme de table ronde, où les différentes personnes qui auront parlé vont dialoguer avec la salle. Donc, j'appelle notre prochain conférencier.